en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup. Merci donc à l'Académie de me recevoir. Je tiens à remercier le président et le secrétaire perpétuel, bien sûr, Jean Guéra, et puis remercier toutes celles et ceux qui m'ont permis de faire ce travail dont je vais vous parler. En particulier l'éditeur, André Champion, les éditeurs, ça sert à ça, de temps en temps quand même. Et mon épouse, Sylvie, qui a été d'une patience d'ange, puisque pendant 3 ans, je suis rentré en religion, en quelque sorte, autour de cet homme dont je vais avoir le plaisir de vous parler, Francisco Pacheco, qui était effectivement, que l'on connaît, paraît-il, comme étant le maître et le beau-père de Velázquez. C'est un homme, c'est un, comment dire, une personnalité qui n'est pas très de premier plan, pourrons-nous dire, qui est une... quelqu'un qui est d'abord son nom n'est pas Francisco Pacheco, c'est Francisco Pérez del Río, parce qu'il est d'une famille de marins, hein. Il est né donc le 3 novembre 1564, merci, d'accord, 1564 à Sanlúcar de Barrameda, qui est une ville portuaire à une centaine de kilomètres de Séville. Vous voyez le Guadalquivir, bon, l'embouchure du Guadalquivir. Et il va donc être orphelin, très jeune. Hein, il perd ses parents. Et il va être élevé par son oncle, le chanoine Francisco Pacheco. Il va prendre son nom. Cette situation ne vous surprendra pas. Puisque à l'époque, l'Espagne du siècle d'or, il y a beaucoup d'épidémies, on y reviendra, terribles souvent, on pense évidemment à celle de 1649, bien sûr. Ce chanoine Francisco Pacheco, il prend donc son nom, comme je vous le dis, meurt en 1599, et donc nous avons effectivement là un parcours que l'on connaît assez bien, puisqu'il va à Séville, et il devient l'élève d'un peintre assez modeste, d'ailleurs, qui est Luis Fernandez, dont il nous parle dans l'Arte de la Pintura. Donc, Séville, à l'époque, je vais vous parler quand même quelque peu de Séville, hein. C'est une très grande ville, c'est la 4e ville d'Europe, hein, après Londres, Paris et Naples. Vous avez ici une gravure, alors évidemment, est en perspective cavalière, une gravure colorée, je vais vous en montrer quelques exemplaires, parce que Séville est quand même très illustrée. Et vous allez reconnaître, si vous connaissez Séville, bien sûr, le fameux château de l'Inquisition, ici, qui n'existe plus, qui a été rasé au XIXe siècle. Bien sûr, la cathédrale avec la Giralda, l'enceinte des tours almohades, et puis la tour de l'or, qui est ici. Et l'Arenal, c'est-à-dire cette espèce de plage, hein, où viennent, imaginez cela, hein, une fois l'an, parfois deux, s'échouer les grands navires, les galions qui viennent des Indes occidentales, c'est-à-dire d'Amérique latine, enfin, et qui viennent donc apporter leur cargaison d'or et surtout d'argent. Et il n'y a qu'un seul pont, vous le voyez à l'époque, qui est celui-ci, qui est un pont de bateau. Il faudra attendre le XIXe siècle pour avoir un autre pont pour la ville. Alors cette ville est au premier plan le quartier donc, des marins, qui s'appelle Triana, hein, qui est un quartier très très populaire, très tumultueux, alors que le reste de la ville, bien évidemment, est tout autre chose. Cette ville, c'est la nouvelle Babylone, hein, selon Cervantes. C'est une ville cosmopolite, et où va naître, effectivement, on passe à la littérature, où va naître, évidemment, le monde picaresque que l'on peut imaginer. Alors, Pacheco, lui, a 3 frères, ça nous le savons par des documents d'archives, on les connaît, Pedro, Mateo et Juan, et ils vont être un peu suspects, hein, parce que vous savez que l'Espagne, à l'époque, quand même, il est question de pureté de sang, hein, limpieza de sangre, et ils vont être l'objet, ces 4 frères, d'une enquête de pureté de sang qui va durer jusqu'en 1601. Donc, bon, on peut se poser un certain nombre de questions, effectivement. Il fallait porter souvent attestation, il fallait attester qu'on était des cristianos viejos, c'est-à-dire des vieux chrétiens. Hein. Sinon, ça pouvait vous empêcher certaines situations, certains emplois, comme vous pouvez vous en douter. Il va se marier en 1596, ça ne nous étonnera pas, puisqu'il a donc suivi sa formation, avec Maria Ruiz del Paramo. Et il va avoir une fille unique, Juana de Miranda, qui épousera, qui est née en 1602, et qui va épouser Velázquez, le grand Diego Velázquez de Silva, en 1618, le 23 avril, pour être précis. Donc nous avons là, effectivement, on va continuer, si vous voulez, avec un tableau qui a été longtemps attribué à Alonso Sánchez Coelho, qui est maintenant anonyme, et qui représente cette Séville, toujours à peu près sous le même angle de vue, hein, où vous voyez très très bien l'Arenal, la Giralda, le Guadalquivir, le pont de bateau, le quartier de Triana, hein. Et puis bien sûr des gravures qui sont passionnantes, car vous le savez, je ne le répéterai jamais assez, la gravure, pour bon nombre de peintres, c'est la référence. Les peintres ont des portfolios de gravures dans leur atelier, ils s'en inspirent et ils voyagent comme cela grâce à ce support qui est éminemment intéressant et peu onéreux. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer cette merveilleuse gravure où il est bien dit, vous le voyez, « Quien non ha vista Sevilla, non ha vista maravilla », c'est-à-dire qui n'a pas vu Séville, n'a pas vu de merveille. Nous sommes là dans cette idée de la Séville qui est la nouvelle Rome. Tout ce milieu intellectuel brillant dans lequel Pacheco va évoluer et bien sûr le jeune Diego Velázquez, il a dans l'idée que, alors ce sont des poètes, ce sont des hommes de lettres, ce sont des peintres, des sculpteurs, on y reviendra. Et peu à peu, ces gens vont aussi partir vers Madrid, à commencer par Velázquez en 1523. Hein. Donc cette ville est une ville puissante, riche, et qui attire les artistes par la présence de commanditaires que je vous laisse. Voici encore une de ces merveilleuses gravures qui sont autant, avec peut-être encore mieux ici, l'effroyable château de l'Inquisition, vous voyez, qui vous fait comprendre aussi quelque part cette leyenda negra, cette légende noire qui va habiller l'Inquisition, encore peut-être jusqu'à nos jours, dans les siècles, dès le XVIIe siècle d'ailleurs, et avec en culminant au XIXe siècle, comme on en reparlera. Donc nous avons ici affaire à un peintre donc, qui est un peintre de chevalet et un peintre de retable. Car en fait, qui est le plus grand commanditaire, bien sûr le pouvoir royal, mais aussi l'Église. Hein. Donc, avec cet or des Amériques, eh bien, Séville va se couvrir de retables. Si vous connaissez Séville, si vous parcourez les rues de Séville, tous les 300 mètres, il y a un couvent, et dans ces couvents, dans ces églises, il y a de merveilleuses choses. Hein. Donc, il va s'insérer là-dedans. Et dans son livre, dans l'art de la peinture, il va par exemple nous dire qu'en 1593, il va peindre, il diversifie ses menus, il va peindre par exemple des bannières. Ça, c'est assez intéressant. D'immenses bannières pour la flotte donc, de la Nouvelle-Espagne, c'est le livre 3, le chapitre 6. Rien que des pièces de 26 mètres, 30 mètres de long, vous voyez. Et il nous raconte tout cela de manière assez passionnante. Et je vais donc vous montrer quand même quelques exemples de sa production, hein, parce qu'il a été quand même, il faut bien le dire, assez injustement dénigré. Voici par exemple une Sainte Catherine qui est la paire avec une Sainte Agnès, qui est datée de 1608 au musée du Prado, panneau de bois, donc 1 mètre à peu près par 43 centimètres, et qui est tirée donc du retable de Doña Francisca de León. Elle est qui était située initialement à Santo Ángel à Séville. Donc vous avez déjà remarqué un certain nombre de choses. C'est-à-dire que c'est un bon peintre, honnête, très marqué par le courant hispano-flamand et par le maniérisme. Hein. C'est un homme qui sait très très bien dessiner, c'est un excellent dessinateur. Et je vous montrerai les deux dessins que nous avons la chance d'avoir acquis pour le musée. Et bien sûr, vous allez constater le côté très frontal, le côté monumental de ses compositions, hein, la référence aussi à Michel-Ange. Et vous allez constater plusieurs choses, car votre œil ne laisse rien échapper, nous sommes bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, ici, dans ce mariage mystique de Sainte Agnès, daté de 1628, qui est au musée des Beaux-Arts, vous allez remarquer deux choses. Tout d'abord, le côté, les plans seconds, qui sont très foncés. Et cela, il faut bien le dire, c'est dû à l'emploi de l'azurite, hein, qui est un carbonate de cuivre. Hein, car vous savez, je vais vous parler un peu technique, pardonnez-moi, mais les peintres, lorsqu'ils doivent faire des bleus, hein, alors les bleus, il va vous en parler, Fachéco, bien évidemment, il est très fier de ces bleus. Eh bien, soit ils ont beaucoup d'argent parce que la commande est importante, et là, ils font avec du lapis lazuli. Et le lapis lazuli, ça vient d'Afghanistan, et ça coûte la peau des oreilles. Donc, il faut... évidemment, trouver un pigment de substitution lorsqu'évidemment les choses sont moins onéreuses, eh bien on prend de l'azurite. Et l'azurite a un grand défaut, c'est qu'elle noircit avec le temps. Elle devient d'abord verte et ensuite vraiment très foncée, ce qui est le cas ici. Donc il faut vous résigner à une vision de certaines de ses œuvres un petit peu, disons, assombrie, c'est le cas ici. Hein. La seconde chose, c'est effectivement, vous savez, c'est très caractéristique de sa manière. Par exemple, sur le manteau et surtout la robe de la Vierge, vous voyez qu'il a l'habitude, sur l'arête des plis du vêtement, de distinguer cela grâce à un liseré blanc. Et ça, c'est Pacheco. Ça, c'est vraiment lui qui fait ça, que ce soit dans ses peintures que dans ses dessins. Grande élégance des formes et des modèles, et puis bien évidemment, équilibre de la composition. Voici un autre exemple, Saint Joachim et Sainte Anne à la Porte Dorée, nous sommes vers 1615, toujours ce même problème donc du noircissement, et tableau donc de conserver maintenant à l'Académie royale des Beaux-Arts de San Fernando, et qui venait donc de la chapelle de l'Annonciation du couvent Saint-Herménégilde de Séville, et qui est le pendant de celui que je vous montre maintenant, qui est donc le songe de Saint-Joseph, donc bien évidemment, songe de Saint-Joseph, qui est au même endroit, daté de la même période. Les thèmes sont éminemment religieux, ça vous en doutez, et on voit très très bien ses références, c'est-à-dire, bon, pour lui, Michel-Ange et Raphaël sont des dieux, hein, il faut continuer, il faut travailler comme eux, il faut perpétuer cette manière. Donc il est aussi célèbre, Pacheco, pour avoir réalisé un certain nombre d'images de l'Immaculée Conception. Alors vous allez me dire, mais l'Immaculée Conception, c'est le 19e siècle, le dogme a été vraiment entériné. Oui, certes, mais il faut savoir que dès le début du 16e siècle, du 17e siècle, pardon, à Séville, eh bien, c'est quelque chose qui est très à l'honneur. Il y a des confréries, et donc il va en faire une vingtaine, il va en exécuter une vingtaine. Vous avez devant les yeux celle qui est célèbre de la cathédrale de Séville. Elle est datée de vers 1616, c'est-à-dire la grande période d'activité du peintre. Et vous remarquerez plusieurs choses. Bon, c'est toujours sur noircissement, mais les symboles effectivement des litanies de la Vierge, hein, avec la tour, les lys de la pureté, les roses, etc. L'image aussi de cette Vierge qui est une toute jeune fille, hein, dont il nous parle dans le traité, hein, il dit, il faut la représenter comme ça. Bien évidemment, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'arête des plis. Hein, et puis le poète Miguel Cid qui est là, puisqu'il était célèbre pour avoir justement écrit des poésies en hommage à la Vierge. Donc je vous montre encore un exemple si besoin. Et puis surtout cet aspect aussi poétique dans son œuvre, c'est-à-dire le petit navire, je ne sais pas si vous le voyez, qui est dans ce croissant de lune, dans cette espèce de sphère laiteuse, et qui va s'en aller vers la haute mer, hein, des visions, enfin, des images qui sont quand même assez séduisantes. Et puis, bien évidemment, nous allons avoir d'autres exemples, celui du palais archiépiscopal de Séville, 1615-1620, qui vous prouve, si besoin est encore, eh bien, cette image un peu cadrée, car il ne faut pas l'oublier, en 1618, il a été distingué par l'Inquisition, ça va lui coûter cher, hein, parce qu'on ne va pas lui pardonner comme ça, mais il a été nommé par l'Inquisition Veedor, c'est-à-dire contrôleur des images sacrées. Alors, on lui a évidemment on a dit, bon, c'est affreux, c'est un sectaire, etc. Non, c'est un titre honorifique. Et d'ailleurs, il ne se fait pas beaucoup d'illusions, hein, puisque dans ses, comment dire, dans ses, son livre, il ne se fait pas beaucoup d'illusions sur le fait que ses corrélégionnaires peintres vont respecter ce qu'il dit. Donc, il est aussi célèbre, Pacheco, et, pour ses représentations du Christ en croix. Et là, évidemment, il est en complet décalage avec ce qui va se faire à l'époque. Voici le premier Christ en croix de la collection Gomez Moreno de Madrid, 1614. Et vous allez retrouver dans donc, ce traité de la peinture une bonne partie traitant de cette iconologie. Vous allez me dire, mais c'est sec. C'est... D'ailleurs, ça ne va pas louper, puisqu'il va être l'objet, quelque temps plus tard, en 1715, de la part d'Antonio Palomino, d'une petite poésie, une pasquinade, pourrait-on dire, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est assez incisif. Je vous la cite, hein, et je vais vous la traduire, 1715. Donc Palomino est un peintre et historien de l'art qui a écrit donc, le Museo Pictorico e Scala Optica, qui est très précieux, bien sûr, et il nous dit, ce Palomino, à propos de Pacheco, que nos puso así, señor, tan desabrido y tan seco. Vos me diréis que el amor más yo digo que Pacheco. Ce qui veut dire, qui vous a disposé ainsi, Seigneur, si fade et si sec, ben, vous me direz que c'est l'amour, moi je dis que c'est Pacheco. Ça pardonne pas. Hein. Bon, là, là. Alors, je vous montre l'autre. Alors, je vais vous expliquer quand même pourquoi. Voilà le second, qui est un peu le chef modèle, si vous voulez. Le Christ en croix de 1615 de la collection de Teresa López Doria. Ce sont des petits panneaux de bois, hein, de 0,50 par 38, à peu près 58 par 57. Et vous allez remarquer deux choses. Encore une fois, rien ne vous échappe. Eh bien, que le Christ est crucifié, vous voulez, bon, avec quatre clous. Et ça, c'est une partie de son, une grande partie de ce traité dans les additions, on va y revenir. Est-ce que le Christ, vous rendez compte, hein, le Christ a-t-il été crucifié avec trois ou quatre clous? C'est fondamental. Hein. Eh bien, il va développer ça pour des raisons, effectivement, de représentation, parce que Pacheco n'est pas un sectaire, quelqu'un qui applique des systèmes. Il veut à nouveau rénover certaines images, et là, il s'y prend en revenant aux origines, au Christ roman, un petit peu. Alors, évidemment, on peut se dire, oui, d'accord, mais quand on efface, vous voyez, je vous montre maintenant le... Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Le Christ de Zurbarán, hein, le Christ en croix du couvent de San Pablo el Real, qui est peint en 1627. Un grand tableau, hein, 2,69 m par 1,65 m. Il est à l'heure actuelle, il est à Chicago, à l'Art Institute. Bon, bah, évidemment, ça n'a aucun... Enfin, cette image est extraordinaire, d'une puissance, tandis que l'autre, bah, évidemment, c'est une image un peu académique, il faut bien le dire. Mais le Christ de Zurbarán est crucifié avec quatre clous. Hein? Bon, donc Pacheco ne va pas vraiment réussir à s'adapter. Hein, il est le dernier, peut-on dire, des maniéristes à Séville, hein, dans les années 1620. Il est à la fin de sa vie, là nous sommes en 1638, il va produire cette flagellation, vous voyez, où il revient un petit peu, il retombe dans cette idée du courant hispano-flamand. Hein, et par contre, je tiens quand même à dire qu'il est capable, on remonte un peu le temps si vous le voulez bien, il est capable de nous donner de très belles choses, comme cette Sainte Rufine de 1618, qui est dans un format ovale, avec sa parette, qui est en main privée, datée de 1618. Et puis, bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur, vous en doutez, parce qu'il faut quand même que je vous parle, excusez-moi, je vais un peu vite, décidément, du musée Goya de Castres. Nous avons eu la chance d'acquérir, successivement, en 1993, en 1996, comme quoi, voyez-vous, un bonheur n'arrive jamais seul, eh bien, le jugement dernier et le Christ servi par les anges. Alors, ce sont de très grands formats. Hein, le jugement dernier qui a été peint entre 1611 et 1614 mesure 3,40 m par 2,36 m. Et le Christ servi par les anges, eh bien, mesure 2,86 m par 4,18 m. On s'est aperçu, en plus, que c'est une histoire extraordinaire, que ces deux tableaux sont fondamentaux, puisque d'abord il en parle dans l'Arte de la Pintura, celui-ci il en parle pendant deux chapitres, le Christ servi par les anges pendant une page et demie, et on s'est aperçu que Velázquez est intervenu, tout jeune, dans le Christ servi par les anges, comme on va le voir, je vais vous le montrer, le voici, est intervenu donc au niveau de la nature morte du Bodegon. On a bien travaillé ça avec des radiographies, des études comparatives. Bon, ça a été une véritable aventure. Pacheco, lui, va mourir en 1644. Donc, vous voyez, une belle longévité, puisqu'il va vivre 80 ans. À l'époque, on vit en moyenne autour de 60 ans. Hein. Et il est enterré, on le sait, le 27 novembre, dans l'église Saint-Michel de Séville, nous dit-on, vêtu d'un habit de capucin, avec sa corde et une grande croix en cyprès. Bon, voilà, une vie de peintre. Mais hormis sa carrière de peintre, qui est ce qu'elle est, hein, c'est un bon maître, c'est pas un immense peintre comme son genre, bien sûr, il est théoricien, il est plusieurs choses à la fois, il est poète, essayiste, collectionneur, il prétend avoir un dessin de Michel-Ange, bon, soit. Eh bien, il va donc travailler dans le domaine de la littérature artistique, et il va, bien sûr, nous offrir d'abord le Libro de Verdaderos Retratos, qui est quelque chose d'assez passionnant, malheureusement non publié de son vivant, vous voyez la date, 1599, qui sera publié au XIXe siècle, et qui est effectivement une galerie, un petit peu à la Vasari, hein, des personnalités sévillanes de l'époque, que ce soit des artistes, que ce soit des religieux, des hommes de lettres, je vous en montre quelques-uns, et il va faire leur portrait. De manière assez précise, d'ailleurs, voici par exemple Fray Luis de León, qui est un écrivain religieux, donc qui s'est distingué dans la littérature religieuse. Il va représenter, on pense, Lope de Vega et Luis del Alcázar, qu'il côtoie, qui est quelqu'un à qui il demande souvent son avis. Et puis, des artistes, je vous les montre, Pedro de Campaña, que vous connaissez certainement parce qu'il est un grand artiste, mais qui n'est pas du tout espagnol, qui est bruxellois, hein, il s'appelle en réalité Peter Kempener, né en 1505, mort en 1580, et puis bien sûr quelqu'un qui va beaucoup apparaître dans le traité de la peinture, qui est le racionero Pablo de Céspedes. Racionero, ça veut dire prébendier. Hein. Il était né à Cordoue, c'est quelqu'un, lui, maniériste aussi, mais qui a beaucoup d'importance pour Pacheco parce qu'il inclut pas mal de ses poésies. Il a vécu à Rome, il est allé à Rome à deux reprises, vers 1568 et en 1580-83, et il le cite souvent. Hein. Alors, par-dessus tout, bien sûr, et ce qui nous occupe, vous vous en doutez, c'est son ouvrage, l'Arte de la Pintura, l'art de la peinture. Il est publié après sa mort, hein, par un imprimeur qui s'appelle Pedro Fajardo. Vous le voyez ici, d'ailleurs, très très bien. C'est le frontispice, c'est-à-dire la page de garde, l'an 1649. Donc, il est mort depuis quelques années, en 1644. Et là, il y a une espèce de mystère autour de cette publication, puisqu'il n'y a pas de dédicace. Hein, d'habitude, ça se fait. On dédicace un livre à un mécène, au roi, parce que les livres sont rares, sont chers, ils sont taxés, on va y revenir. Effectivement, on peut se poser des questions. Est-ce que Velázquez, par exemple, est intervenu ? Peut-être. Moi, je pense que oui, tout en n'étant pas résident, puisque je vous rappelle que Velázquez est parti définitivement à Séville en 1623. Donc, c'est quelque chose d'étonnant. Le manuscrit a été conservé depuis 1921, donc à l'Institut Valencia de Don Juan à Madrid. Et on sait qu'il a été achevé, ce manuscrit, en 1638. Il a commencé à y travailler vers 1619. Hein. Nous sommes dans ce contexte-là. Alors, il est structuré en trois grandes parties, en trois grands livres. Le livre premier, c'est l'Antiquité de la peinture, ses grandeurs, 12 chapitres, donc, d'abord. Il est évident que pour lui, il faut d'abord prouver l'excellence de la peinture et son côté libéral, noble, hein, la peinture par rapport aux arts mécaniques, hein, qui sont évidemment des arts moindres. Il va passer un certain nombre de chapitres comme cela, le premier chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 3 et 5, et il va distinguer et nous raconter, parce qu'il est très narratif, hein, les distinctions, les honneurs que les peintres, évidemment, depuis l'Antiquité, vont pouvoir récolter. Et vous vous doutez qu'il va nous offrir il prend un petit peu chez Vasari, bien évidemment. Vous savez, à l'époque, les droits d'auteur, ça n'existe pas. Donc, d'ailleurs, Cervantes en a fait la dure expérience, vous le savez, ça, encore aussi bien que moi. Donc, il va emprunter chez Vasari, et puis chez beaucoup d'autres auteurs, parce qu'il est très savant. Il va nous raconter la vie de Michel-Ange. et notamment ses funérailles. Alors ça, c'est assez grandiose, parce qu'évidemment, Michel-Ange, c'est son dieu, à la fois architecte, peintre et sculpteur, comme vous pouvez vous en douter. Il va nous donner, par exemple, la liste des nobles, des princes et des religieux, des saints qui ont pratiqué la peinture. Bon, très bien. Et il va donc terminer ce premier livre par les trois états des peintres, c'est-à-dire ceux qui débutent, ceux qui sont à la moitié, nous dit-il. Et il est subtil, parce qu'il nous dit, voilà, on peut faire illusion. Hein. On peut, après avoir pris ici ou là, faire illusion. On peut faire croire qu'on a un style personnel, alors qu'en fait, on prend à gauche, à droite. Et ça, c'est quand même d'une brûlante actualité, quand même. Et puis, le troisième état, eh bien, ce sont les peintres accomplis. Ils sont peu nombreux. Bien, d'accord. Le second livre est consacré à la théorie et les parties de la peinture, parties desquelles elle se compose, donc les divisions de la peinture, et puis bien évidemment, très très vite, les chapitres 2, 3, 4, l'ordre, la décence. Vous savez, la décence, on appelle ça en espagnol, on nomme cela el decoro, hein, c'est un faux ami, la bienséance. Et là, il est très précis, il faut être vraiment extrêmement exigeant sur ces choses-là, parce que c'est par là que, par ces images, si importantes en particulier dans la peinture religieuse, qu'on touche le public, que l'on touche même le vulgo, c'est-à-dire le vulgaire, ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Hein. Il va nous parler ensuite, au chapitre 5, au chapitre 6, toujours de ce livre second, du dessin et de ses parties. Et le dessin, c'est le début de tout. Et vous comprenez très vite qu'il va s'opposer au tenant de la couleur. Alors, couleur, dessin, par quoi commence-t-on? Et lui, bien sûr, il est partisan du dessin. Il va nous parler des proportions, pendant les chapitres 7 et 8, du coloris, de ses parties. Pourquoi les peintres peuvent parfois réussir sans soin? Parce que, évidemment, à l'époque, on commence à travers le courant dit naturaliste, et puis l'influence de Caravage, on commence à se dire, bon, on peut tout, pourquoi s'ennuyer à dessiner tout le temps, à faire des études scientifiques, alors que tout de suite on peut s'y mettre, et puis finalement, si je copie le naturel, la nature créée par Dieu, eh bien tout ça est dedans, vous imaginez. Bon, et le livre troisième, eh bien, il est passionnant pour nous, et passionnant, je pense, pour des artistes de nos jours, et c'est là où, justement, est l'originalité de Pacheco, c'est qu'il nous parle de choses pratiques. Il est le seul à le faire. Il y a trois traités, donc, au XVIIe siècle en Espagne. Il est le seul à nous parler de techniques. Alors, le chapitre 1, par exemple, il y a 16 chapitres dans le livre troisième, les esquisses, les dessins, les cartons, la peinture à la détrempe, les enluminures, l'estofado. Il va nous parler ensuite des différentes façons de peindre à l'huile. Il va nous donner, à faire une petite escapade en nous donnant une biographie de Jean Van Eyck. Hein, bon, voilà. Et il va nous parler des peintures des animaux, poissons, oiseaux et natures mortes. Alors ça, c'est très amusant parce que les natures mortes, vous savez, c'est un genre sympathique, oui, mais ce n'est pas le grand genre. Hein. Et je résiste pas au plaisir d'ouvrir une parenthèse en citant le comte d'Angivillers, vous savez, l'intendant des bâtiments du roi, qui un jour recevant Chardin, qui lui demande une augmentation, lui refusant cette augmentation, et il lui dit, mais enfin, monsieur Chardin, vous n'êtes finalement que le premier des peintres dans le dernier des genres, ça fait toujours plaisir. Donc, il y a là des choses qui sont très précieuses, parce qu'elles sont donc très pratiques. Il ne va pas vous donner peut-être des proportions, quoique, mais il va vous donner des méthodes de travail. Par exemple, pour le dessin. Il dit, voilà, ce qui est très bien dans le dessin, c'est de tremper la feuille de papier dans de l'huile et de la faire sécher entre deux feuilles de feutre. Et ensuite, donc, ce papier se colore et vous allez pouvoir travailler dessus avec de l'albayalde, c'est-à-dire du blanc de plomb. Et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, ça, il suffit de savoir. C'est assez passionnant et je pense que il nous parle d'école, hein, il nous parle enfin, ça fait un peu cuisine parfois, il faut bien le dire, mais enfin, c'est tout à fait intéressant et pas facile à traduire. Hein. Donc, du chapitre 11, il s'arrête au chapitre 10, et il dit bien, bon, voilà, mon travail est terminé, mais entre le chapitre 11 et le chapitre 16, il va faire des additions. Et ces additions, ces ajouts, si vous préférez, sont tout aussi passionnants parce qu'ils traitent des peintures sacrées, puisqu'il se dit, se prétend, peintre religieux, ô combien, et il va nous donner, effectivement, la manière de peindre telle représentation, la Vierge, avec un code de couleur, finalement. Mais encore une fois, en n'imposant pas vraiment, en disant, ça serait bien si, effectivement, on le peignait ainsi, mais sans illusion aucune. Et il va ensuite terminer sur cette, question du Christ avec trois ou quatre clous, disant que les trois clous, c'est le fait des affreux hérétiques albigeois. Bon, bien. Donc, nous sommes là, vous voyez, dans quelque chose qui est... parfois, on lui a reproché de prendre des chemins de traverse, mais c'est quand même quelque chose de très important, très dense et très pensé. C'est donc, il est en relation avec de grands esprits de son époque, comme par exemple Francisco de Rioja, qui est un poète, bibliothécaire du comte duc d'Olivares, s'il vous plaît, et qui va se prendre de bec avec le duc d'Alcalá, de l'époque, un des plus grands d'Espagne, sur le Titulus de la Croix, l'écriteau de la Croix du Christ. Bon, alors, nous, ça nous paraît peut-être un petit peu loin, mais disons que là, alors il n'en parle pas trop, parce que là, apparemment, c'est allé assez loin, mais il a quand même, il baigne dans ces controverses. Une autre anecdote que je peux vous citer, qui est assez savoureuse, c'est effectivement, alors il va citer aussi des pièces que nous connaissons bien, qui sont donc, si j'arrive à faire agir cette mécanique, voyez-vous, non, je n'y arrive pas, ah si, oui, il va donc nous parler, effectivement, il avait certainement une bibliothèque importante, mais la question peut se poser, parce que à la fin de sa vie, on possède un inventaire à prédécès, il n'a que très peu de livres. Alors que Velázquez, lorsqu'il meurt en 1660, son inventaire à prédécès nous donne 156 livres, ce qui est énorme, dont évidemment le traité de Pacheco, vous en doutez. Alors je vous montre là le frontispice du premier traité de 1633 de Vicente Carducho, les dialogues de la peinture, qui est donc publié quelques années auparavant, et qui est le premier, mais où Carducho a quand même récupéré quelques petits passages chez Pacheco, parce que Pacheco avait publié un petit carnet avant, un extrait de ce qui était à venir, et c'est comme ça, vous voyez, on se chipe un petit peu les choses. Mais il y a une continuité dans cette pensée, puisque nous sommes là, évidemment, dans la pensée académique. Alors, je vous montrais effectivement, je voulais vous montrer cette représentation, qui est celui du Christ des batailles de Salamanque, à la cathédrale de Salamanque. Il en parle dans le chapitre 15 au livre 3, en nous disant que c'était celui du Cid, qui était porté en avant des armées chrétiennes. Et vous allez comprendre que cette représentation, vous allez la mettre en relation directe avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire son Christ en croix, très hiératique, qui est inspiré effectivement de représentations de cette sorte de choses. Alors, l'anecdote que je puis vous donner encore, qui est au livre 3, chapitre 1, pour tout ce contexte dans lequel nous baignons, eh bien, c'est sa rencontre avec le Gréco. Il a rencontré Domenikos Theotokopoulos. Il va à Tolède en 1611. Gréco est mort en 1614, je vous le rappelle. Et alors là, c'est savoureux, parce que Gréco le voit venir, il l'accueille chez lui dans sa maison, et il lui dit, vous savez, Michel-Ange, c'est un bonhomme, il ne sait pas peindre, vous imaginez. Alors que pour lui, Michel-Ange, c'est un dieu. Et évidemment, comme Gréco sait ménager ses effets, il le fait mener par son fils, Georges Manuel, dans une pièce où il a conservé à la fois car Gréco était sculpteur, on a quelques pièces de lui, dont deux sont au Prado, et ses bossettes, c'est-à-dire ses études préparatoires. Et là, Pacheco rend les armes en disant, oui, c'est un grand maître. Donc, il est honnête. Mais il rajoute, c'est quand même ennuyeux de peindre avec ses borrones, c'est-à-dire ses taches, c'est peindre pour être pauvre. Donc, vous avez là ce que je vous disais tantôt, c'est-à-dire cette opposition entre les partisans du dessin, hein, et les partisans de la couleur, hein, ce qui est très révélateur de l'époque. Donc, la traduction, évidemment, pourquoi ? Vous allez me dire, mais Monsieur Bourget, pourquoi vous êtes collé à ça ? C'est très simple, parce que, donc, en 93, en 96, nous avons acquis ces deux grands tableaux, ces deux grands chefs-d'œuvre. Quelques temps plus tard, les deux dessins que je vais vous montrer. Et en 2010, un exemplaire, donc, de l'édition Princeps. Hein, on en connaît quelques exemplaires, parce que l'édition a dû être très, très limitée. Bah, il fallait y aller, on est bien d'accord. Hein. 3 ans, bon, 2 pages par jour, je vous le recommande, c'est excellent pour la santé. Et donc, on s'aperçoit qu'il faut rentrer là-dedans, c'est-à-dire qu'on est dans un monde, la Séville du XVIIe siècle, dont quelque part je n'aurais jamais dû partir, mais enfin ça c'est autre chose. Eh bien, l'espagnol du XVIIe siècle, ce n'est pas l'espagnol bien sûr de maintenant, vous en doutez, il est truffé d'abréviations et de citations, hein, latin, grec certains, italien. Et puis, l'idée, c'est de se dire, bon, ils fonctionnent, eux, comme la phrase latine. C'est-à-dire, elles sont longues d'un kilomètre, si je peux me permettre cette expression, ou alors très courtes, en faisant appel sur votre souplesse d'esprit, en faisant appel à votre souplesse d'esprit. Et puis, alors, le fin du fin, c'était les termes techniques, puisque je vous l'ai dit, le livre 3, c'est très technique. Je vous cite quelques exemples. Il a fallu, donc, concevoir un index général et puis un glossaire. Je vous donne quelques exemples. L'almartaga, par exemple, c'est de l'oxyde de plomb, hein, de couleur jaune, sous forme de lamelles. Bon, il faut le savoir. L'anil, par exemple, c'est un pigment bleu tiré donc de plantes de l'indigo, hein, bien sûr. Le cardenilio, par exemple, c'est un acétate basique de cuivre qui donne du vert clair. Hein. L'engrudo, par exemple, c'est une colle de pâte qui est faite avec du sel, de la farine ou encore du fromage. Et il dit on pourrait même en manger. Vous voyez, bon, bien. Certains termes sont vraiment difficiles à trouver, mais enfin, on y arrive. Le Guadamesile, il nous parle de colle, les colles de Guadamesileros. Eh bien, les Guadamesileros, ce sont des fabricants de cuir de cordoue. Et il faut le savoir, parce que, et qui ont été mis à la porte, évidemment, en 1610, puisque vous le savez, en 1610, 1611, etc., Philippe III a exilé, a éjecté les Morisques. Hein. Et d'ailleurs, l'anecdote est très savoureuse de l'archevêque de Cordoue, de Tolède, qui dit maintenant qu'il va faire nos chaussures. Enfin bon, ça c'est autre chose. Et donc les Guadamesileros, eh bien ça vient de Gadames, la ville de Gadames en Libye, d'où venaient ces gens qui travaillaient le cuir de Cordoue et qui fabriquaient une colle extrêmement forte. Alors le pire, ça m'a arrêté à peu près une semaine. C'est une poésie justement de Pablo de Céspedes, justement, qui est dans le livre 3, chapitre 5. Je vous la donne en français. Il est question de l'encre qui sert à écrire, qui sert à dessiner, et qui vous rend immortel, bien évidemment. L'huile avec laquelle plus commode on peint, avec celle-ci d'autres qu'ensemble destinent, à la lettre et au dessin, l'obscure encre de Caparrosa faite, de galles et de gomme, avec la liqueur de la, que donne la fertile saume. La Soma, S-O-M-A, qu'est-ce que c'est ? Personne ne vous dit rien, évidemment. Même pas nos amis espagnols, d'ailleurs, mais enfin bon. Alors, bon, la Caparrosa, on sait ce que c'est un sulfate de cuivre avec de la gomme arabique, avec de la noix de galle, on en fait effectivement de l'encre. Bon. Mais la Soma, bien, il a fallu se souvenir d'un texte antique de Virgile où il est question de mensoma avec 2 M et que vous allez retrouver bien évidemment, hein, vos petites cellules grises vont agir comme ce cher Hercule Poirot et il va se passer que vous allez trouver le nom antique du Vésuve, c'est le mensoma avec 2 M. Vous savez que le Vésuve a explosé en 79 de notre ère, je ne vous apprends rien. Eh bien, il reste un petit bout de ce Vésuve antique, et sur ce petit bout, il y a la ville de Somma Vesuviana. Hein, et on fait toujours une liqueur, le limoncello, et qui effectivement, vous m'avez vu venir, hein, avec du citron, à l'époque ce sont des cédras, on fait de l'encre sympathique. Voilà. Alors, je suis prudent, hein. Je vous donne ceci comme une hypothèse, mais enfin, je pense qu'elle est bonne. D'autres exemples de ce genre, par exemple, il nous parle de azúcar de redom, c'est du sucre de fiole. Ah bon ? Eh bien, sachez qu'à l'époque, eh bien, on récolte le sucre, on met dans des fioles des sirops, des jarabes, et on va récolter le sucre de ces, une fois qu'on a bu le sirop, récupérer ce sucre, on a fait des pièges à mouches. Bon, ah ben voilà. Alors, il y a d'autres choses qui sont amusantes. Par exemple, on dit, il faut employer de la peau de chien de mer. Eh bien, la peau de chien de mer, c'est la peau de requin. Hein, vous le savez certainement, peut-être, si vous êtes ça s'emploie toujours pour les meubles, là. Mais on n'avait pas à l'époque de papier émerie, on emploie de la peau de requin. Il y a d'autres choses plus savoureuses encore, peut-être, c'est dans le livre 3, chapitre 2, où il nous parle des pinceaux, des brosses. Et il nous dit, voilà, il faut des poils de chèvre, des poils de poisson, ah bon, et des poils de petits melons, meloncillo. Ah, tu poils de melon, alors vraiment, je ne voyais pas du tout. Mais le meloncillo, c'est aussi, alors vous cherchez, hein, vous cherchez, vous finissez par trouver. Eh bien, c'est une mangouste, le meloncillo, on l'appelle le rat des pharaons, c'est la seule mangouste qui vit au sud de l'Espagne. Bon, il faut le savoir, vous voyez. Donc, il y a là des petites choses qui font appel, effectivement, à un certain nombre de méthodes de recherche qui, vous voyez, ne sont pas rébarbatives. Alors, il a de l'humour aussi. Vous savez que l'humour, ça, quand même, hein, ça aide à vivre, hein, il me semble. Par exemple, dans le livre 3 et le chapitre 9, il renvoie dos à dos les pédants, les mauvais artistes. Il nous dit, par exemple, d'un gentilhomme qui vient dans l'atelier, on suppose que c'est le sien, il nous dit, le gentilhomme dit, c'est en bois, je croyais que c'était en volume. Ou bien, deux religieux qui visitent toujours cet atelier, où des jeunes apprentis sont en train de dessiner, ah, ce sont des frontispices de jeunes garçons qu'ils font, vous voyez, ils disent n'importe quoi. Bon, et alors, le plus savoureux, c'est que lorsqu'il parle de deux peintres, l'un qui dessine un lapin, qui va peindre un lapin. Et ce lapin est tellement mauvais qu'on ne le reconnaît pas, il est obligé de marquer lapin en bas dessous. Vous voyez ? Bon. Et un autre qui peint un coq, toujours, c'est un peintre, un mauvais peintre, et soudain, un vrai coq, un véritable coq, pénètre dans la salle. Alors le peintre regarde le coq, regarde ce qu'il a peint, et puis il tue le coq. Et Pacheco dit, en quelque sorte, le coq est mort pour la vérité. Donc voilà, vous voyez, il ne manque pas du tout d'humour. Et surtout, c'est un homme extrêmement savant. Je vais vous montrer quelques-uns, voilà, rapidement. Il cite énormément, il y a plus de 6000 notes dans le livre. Il cite Diego de Sagredo, par exemple, les Medidas del Romano de 1526. Il cite, par exemple, Vicente Carducho, Euclide, que vous avez là, la géométrie d'Euclide, qui a été publiée à Bâle en 1506. Il va bien évidemment vous citer ce cher Pline l'Ancien, le livre 34 et 35, qui est une base pour parler des peintres antiques. Il va vous parler de Vignol, qui va nous parler des proportions. Et je vous ai sélectionné cette planche de Vignol, justement, pour tout ce qui peut être proportion, travail du compas. Hein. Et il va, dans toute cette liste, elle est longue, il y a Alberti, il y a Dürer, vous en doutez, de la symétrie des corps humains, il y a qu'un seul traité dont il ne parle pas, c'est Dante. Hein. Et il va, évidemment, nous parler, pour la partie littéraire, de l'ouvrage d'Andrés García de Céspedes, qui est la géométrie, et puis les discours apologiques de Juan de Butrón, par exemple. Et il va terminer par Sébastien de Covarrubias, voici la géométrie, et voici donc le trésor de la langue castillade de Sébastien de Covarrubias de 1611. Il est très sensible aussi à cette idée de la langue, hein, de l'élégance de la langue. Ah, chose intéressante, je trouve. Et donc, il termine, comme je vous l'ai dit tantôt, sur ces diatribes, ces controverses sur le titulus, sur les quatre clous de la croix. C'est un homme d'une très grande érudition, ce qui est rare chez un peintre, hein, à l'époque. Ce n'est pas le seul cas. Et puis surtout, de manière sympathique, il nous parle de lui. Hein. Il va nous parler d'un lieu que j'aime particulièrement à Séville, vous connaissez, j'espère, Séville, et vous irez si vous n'y êtes encore allé, qui est la Casa de Pilatos, hein, qui est le palais du duc d'Alcala. C'est un merveilleux ensemble élevé à partir du XVe siècle et ensuite, avec des patios, des azulejos, etc., des fontaines et des merveilleux statues et reliefs antiques qui viennent d'Italica. Et il va, en 1603-1604, recevoir la commande du plafond du salon, qui est maintenant le salon Pacheco, que je vais vous montrer. Alors allez-y le matin, hein, tôt, parce qu'après il y a beaucoup de Japonais, enfin, c'est très compliqué. Mais il y a des jardins merveilleux. Et vous pouvez. Vous êtes suspendu dans le temps. Hein. Je vous conseille vraiment d'y aller. Et donc, voilà ce fameux salon Pacheco, qu'il a peint à la colle, hein, et à des trempes. Alors, vous allez me dire, bon, c'est, d'accord, vous êtes bien gentil, monsieur Auger, mais voilà, je vous montre, voici ce plafond. Il s'est complètement assombri. Hein. Imaginez que tout ce qui est sombre était bleu clair. Voici un détail. Et c'est un plafond, j'insiste sur le thème, qui est mythologique, c'est le Tree of Hercule. Hein, c'est quand même très, très étonnant. Bon, ça ne peut ne pas aussi non plus étonner tant que ça, parce que le duc d'Alcala est un homme qui a une culture classique très, très poussée. Mais c'est un des rares exemples de thèmes non religieux profanes. Peinture à la détempe avec, par exemple, la chute d'Édale, Icare, etc. Bon, c'est quand même quelque chose. Et il va relater aussi, il relate des documents tout à fait passionnants, dont je vous en cite un. Il relate une lettre que lui écrit le duc d'Alcala, lui, Pacheco, en 1625, sur les noces Aldobrandine, qui sont conservées, vous le savez, au Vatican, qui ont été découvertes donc sous Urbain VIII, et qui, le duc d'Alcala, va les faire copier pour sa collection personnelle. Et il parle, alors là, il y a une interprétation assez étonnante, je vais vous montrer un détail, il parle, ce duc d'Alcala, du toro génial de cette composition. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Un toro, c'est un tor, oui, mais c'est aussi le taureau. Et moi, je me suis posé la question, et je vous la pose, ici, vous voyez, là, dans ce pli, une tête, peut-être, de taureau, avec les cornes, l'œil, le mufle. Est-ce que c'est pas de ça qu'il parle ? Parce que vous savez, ces gens du XVIe, XVIIe siècle voient beaucoup de choses comme cela en tiroir. Hein. Donc il y a cette petite chose-là qui reste un peu en suspens à propos de cette peinture dont il fait évidemment l'éloge. Hein. Il nous parle donc des techniques du dessin, je vous l'ai dit, dans le livre 2, chapitres 5 et 6, et j'en profite pour vous montrer les deux magnifiques dessins que nous conservons à Castres, la Sainte-Anne, qui sont datés tous les deux, voyez, de 1604 ici. C'est le prototype même de ce que je vous disais tantôt, c'est-à-dire les papiers huilés, orné, donc rehaussé au blanc de plomb, à l'albayalde, ce qui vous donne un effet tout particulier, bien évidemment, la Vierge, Sainte-Anne, la Vierge, l'Enfant Jésus, et puis, bien sûr, la Sainte Régina, qui est une très belle. Alors, je pense, moi, qu'il s'agit probablement d'une série, il y avait un certain nombre d'autres dessins, pour peut-être un ensemble qui n'a malheureusement pas, je pense, été réalisé. Et puis, bien évidemment, il va collaborer. Il a plusieurs cordes à son arc, ce cher Pacheco. Il va collaborer avec un homme qui est extraordinaire, qui est son ami, qui est Juan Martinez Montañez, qui est le plus grand sculpteur de l'époque. Il en parle donc dans le livre 3, chapitre 6. Voici le portrait de Martinez Montañez à l'âge de 47 ans par Francisco Varela. Et vous allez le voir, il nous parle, il n'est pas sculpteur encore une fois, il fait la polychromie de ses statues. Et vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Voici de la main de Martinez Montañez, de Saint-Jérôme, qui est daté de 1609-1613, de San Isidoro del Campo, qui est, alors je vous le montre là, en vue un petit peu isolée, et puis en situation. C'est une sculpture éminemment spectaculaire, parce que souvent, cette sculpture est une sculpture intégrée dans les grands retables. Hein. Et puis, il va participer à ces pièces absolument hors pair, qui ont toujours une présence ineffable. Le Christ de la Clémence, par exemple, qui est conservé maintenant à la cathédrale de Séville, il est extrêmement respecté, extrêmement révéré. Et il a d'ailleurs été demandé en prêt il y a quelques années par nos amis anglais. Je ne vous dis pas, les Sévillans ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils ont réussi à prêter une autre pièce, parce que non, c'était impossible. Hein. Une polychromie extraordinaire, où vous remarquerez bien sûr les quatre clous. Et puis finalement, une présence assez limitée du sang et du côté expressionniste. Hein. Ce n'est pas du tout sa façon de travailler. Hein. Polychromie donc de Pacheco, sculpture de Martinez Montañez. Et puis vous avez ici le Saint-François Borgia, qui est daté de 1624. Je vais vous montrer de vue. Et où Pacheco nous dit, il faut employer de la peinture en mat, il faut poncer, il faut mettre de la litharge pour cicatif. Il nous donne tous les éléments. Et ça vous donne vraiment l'illusion du réel. Hein. Et il nous dit surtout pas de cils, hein, surtout pas de cheveux artificiels, ça ne va pas du tout, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, il va nous amener comme cela, vous voyez, dans ce voyage, voici ce magnifique visage de Saint-François Borgia, et il va aussi reconnaître, car encore une fois, c'est un honnête homme, hein, il va reconnaître l'excellence de son gendre. Il va nous donner une première biographie de Velázquez jusqu'à son premier voyage donc, à Rome, la rencontre avec Rubens en 1628 à la cour. Et il nous dit, je tiens à le citer au livre 1, chapitre 8, « Et parce qu'est plus grande la gloire du maître que celle du beau-père, il a été juste d'empêcher l'audace de quelqu'un de vouloir m'ôter cette gloire, de vouloir m'enlever cette gloire en m'ôtant la couronne de mes dernières années. » Je crois que c'est assez beau. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il est dépassé par son gendre et finalement, il admet. Et il admet aussi que son gendre ne suive pas son style, c'est-à-dire le maniérisme, et qu'il se lance dans le naturalisme et un petit peu sur la trace de Caravage. Alors, je vous montre très rapidement, évidemment, le Christ servi par les anges, parce que ça a été une véritable aventure. L'emplacement de ce Christ servi par les anges au couvent San Clemente el Real de Séville, où j'ai été il y a quelques années. C'était une aventure parce que, je suis désolé pour vous mesdames, mais la règle du XVIIe siècle s'impose toujours. Vous ne pouvez pas rentrer. Vous pourriez distraire les moniales par vos tenues vestimentaires, c'est ce qui m'a été dit. Donc je suis allé voir cela, si, je vous assure. Et imaginez le tableau sur le mur du fond. Je vais vous le montrer en vision, en reconstitution. Et j'ai été, pour la petite histoire, pris par la manche, par une mère supérieure terrible, qui m'a amené par un dédale, je ne vous mens pas, hein, un dédale de couloir, et elle m'a amené dans un petit patio charmant où il y avait des assoulejos à moitié cassés. Elle m'a dit, c'est Soult qui a fait ça. Oui, bien sûr, il y a 200 ans, je me suis excusé pour le maréchal Soult. Donc voilà, oui, c'est encore présent. Et donc, imaginez dans ce magnifique endroit qui donne sur un patio luxuriant, il y avait plus de 200 moniales hein, à l'époque, dans la grande période de ce couvent qui est au nord de Séville. Et bien voilà ce que ça donnait, avec une reconstitution qui a été faite par mon ami Enrique Valdivieso, professeur honoraire à l'Université de Séville, lorsqu'il a publié un livre il y a quelques années sur les chefs-d'œuvre un petit peu dispersés. C'était une véritable vision hein, que ce tableau qui est magnifique. Et donc, voilà le dessin préparatoire qui se trouve à Barcelone hein, et qui nous a permis de comprendre, de constater qu'il est signé, vous voyez, 7 octobre 1615, que le tableau a été certainement réalisé en un peu plus d'un an, avec quelques variantes, bien évidemment. Et on s'est amusé, vous savez, on s'amuse beaucoup dans les musées. Vu ce que disait Pacheco dans son traité, j'ai commencé à le travailler du point de vue mathématique. Alors là, évidemment, on se lance en haute mer, comme il dit. Hein. Eh bien, vous tracez c'est très simple, vous tracez les médianes, les bisectrices, et avec des compas, vous allez basculer les petits côtés sur les grands inversement. Alors vous allez me dire, là, vous commencez à délirer, monsieur Auger. Non, pas du tout. Hein, j'ai la preuve qu'en 1625, un document d'archives prouve que Velázquez a acheté des compas de 1,70 m de haut, dos vara de altura, la vara fait à peu près 83-84 cm. Pourquoi est-ce faire? Et donc on s'aperçoit que cette composition est calée effectivement, vous voyez, sur des reports d'arcs qui se croisent dans des points remarquables. Vous remarquerez tout comme moi, comme tout un chacun, que le centre du tableau avec les deux médianes se croise sur le nœud de la ceinture de l'ange maître d'autel. Et on se dit, ben évidemment, cette culture mathématique qui nous parle, il nous dit d'ailleurs, il y a deux façons de peindre, la façon scientifique, l'emploi scientifique, hein, et la manière jugée. Eh bien, il l'a transmise à Velázquez. Voici des compas, je vous montre ceci, ça a été vendu il y a quelques années à Paris, ici, des compas de réduction, qui sont utilisés pour travailler en peinture, enfin, à part pour le report, notamment des dessins en mise au carreau. Enfin, il y a une culture mathématique. Et le jugement dernier, c'est la même chose. Parce que lorsque j'ai commencé à travailler cette composition mathématique sur le Christ servi par les anges, que j'ai essayé d'appliquer cette méthode pour le jugement dernier, je ne suis arrivé à rien. Pourquoi ? Parce que l'un était sur le mur du réfectoire, le Christ servi par les anges, et l'autre était dans un retable. Et c'était l'ensemble du retable qui était calculé avec un certain nombre de proportions. Et je pense que ça intéressera M. Petit-Girard, parce que ces proportions sont des harmoniques. Hein ? Donc, entre autres. Alors voilà comment le jugement dernier, on le connaît, il a disparu pendant un siècle et demi. les œuvres sont vagabondes. Et donc, on le connaissait par cette méchante gravure de Beaucourt et de Langle dans l'ouvrage de Charles Blanc. On ne savait pas où il était passé. Parce que, très vraisemblablement, ces deux grands tableaux, qui désormais sont à Castres, ont été prélevés. On s'est aperçu dans les restaurants que les bords sont découpés de manière très chaotique par nous autres, horrorosos franceses, c'est-à-dire horribles français, n'est-ce pas ? Et puis, bon, voilà, ils sont arrivés en France et on a eu la chance de les acquérir. Et un jour, voilà ce qui s'est, voilà le dessin préparatoire à qui parle Prado il y a quelques années, où vous remarquerez, car rien ne vous échappe, que ont été inversés le Saint-Michel, vous voyez, ici, qui tient la croix. Dans le tableau, là, le dessin, c'est Saint-Michel qui tient la croix et c'est Gabriel qui est en bas, et il a été inversé. Et il en parle, il vous dit pourquoi il l'a fait, il vous dit tout. Donc, voilà ce que ça donne en construction mathématique avec des harmoniques. Ça fonctionne avec l'ensemble du retable. Je ne vous casse pas la tête avec ça, parce qu'autrement, on en aurait jusqu'à demain. Mais je vous assure que c'est très, très poussé. Et que, effectivement, ça m'a lancé ensuite vers des recherches chez Velázquez et que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, petite cerise sur le gâteau, en bas à gauche, il nous dit « Je me suis représenté à espaldas, à hauteur des épaules, entre une jeune femme et un homme de dos. » C'est lui, son autoportrait vers 50 ans. Et bien sûr, ça nous a permis d'identifier, vous allez le voir ici, ce portrait d'homme qui est à gauche, qui est pas très très grand, à peu près une trentaine de centimètres, qui était de la main de Velázquez au Prado, portrait d'homme, et vous ferez la comparaison, c'est lui quelques années plus tard, avec, vous le remarquerez, cette magnifique fraise, donc nous sommes avant 1623, puisque en 1623 est paru un édit somptuaire interdisant les lechugas, comme disent les Espagnols ont beaucoup d'humour, vous le savez, lechuga veut dire laitue. Hein, mais ça veut dire aussi fraise. Bon. Et donc, nous avons là pu identifier, grâce à cette, je vous montre, vous voyez, c'est peut-être mieux ici, cet autoportrait attesté par le livre lui-même, et donc le portrait du Prado par Velázquez. Donc, nous sommes effectivement, voici l'emplacement donc, du jugement dernier au couvent Santa Isabel. Là, vous pourrez le voir, mesdames, parce que c'est dans l'église, c'est ouvert au public. Et d'habitude, là, il n'y avait pas... il y a un Christ en croix. Vous voyez l'ensemble du retable qui a été conçu, effectivement, par Pacheco. Et donc, Pacheco, il a été un petit peu oublié, injustement dénigré. Je vous ai parlé, effectivement, de Palomino, mais nous autres Français, nous y avons rajouté aussi, puisque Paul Lefort, par exemple, qui est un historien de l'art, qui a publié, donc, en 1893, un ouvrage sur la peinture espagnole, nous dit « c'est le plus intolérant des pires doctrinaires enfin, ». Vraiment, il le traite plus bas que terre, alors que, vous voyez, c'est quand même très, 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 très injuste. Et les Espagnols lui ont consacré vraiment une belle exposition, simplement en mars-juin 2016. Hein, Pacheco, donc théoricien, maître, artiste. Et donc, voilà, on le redécouvre, et quelque part, il était temps, me semble-t-il, à travers à la fois la traduction intégrale, hein, puisqu'il y a 32 ans, Lauriane Fayet-Dest avait fait, il faut le dire, une traduction partielle, et surtout pas la partie technique, eh bien, on est là, effectivement, dans une espèce de redécouverte. Hein. Et puis, bien évidemment, nous avons la peste à Séville. Hein. En 1649, la peste se déclare à Séville. Alors, il y a plusieurs théories. Enfin, ce qu'on sait, c'est que le Guadalquivir a été en crue au printemps. La ville est estimée, la population est estimée à 120 000 âmes. Hein. Et il va y avoir 60 000 morts, à peu près. Donc, c'est effroyable. La ville ne va pas s'en relever. Martinez Montañés meurt au mois de juin. Et donc... Quelque part, je ne sais pas si vous serez avec moi, mais Séville est restée quelque part un petit peu sur cette idée de sa splendeur après cette grande peste dont les représentations sont très rares. Il y a des représentations allégoriques, mais les représentations un petit peu réalistes, vous en avez une sous les yeux, la date est erronée, c'est bien 1649, c'est l'hôpital de la Sangre, où vous le voyez, entre les processions, les gens qui meurent, qu'on enterre n'importe comment, c'est une vision apocalyptique. Hein. Donc, nous sommes effectivement dans ce monde-là. Et Pacheco, donc, comme je vous le dis, méritait cette réhabilitation, hein, à travers effectivement ce que nous avons pu récolter par des hasards heureux à Castres. Le travail avec les amis espagnols, bien évidemment. Je voulais citer Enrique Valdivieso, mais il y a aussi Ignacio Cano, pour ne citer qu'eux. Et donc, moi, je crois qu'il a sa place, cet homme, aux côtés de Velázquez, puisqu'il lui transmet effectivement ses connaissances théoriques, techniques, scientifiques, et la haute idée que l'on peut avoir du peintre, hein, avec bien évidemment la controverse qu'on peut développer vis-à-vis des sculpteurs. Mais il est à la fois un pinsum de connaissances, qu'il est toujours utile de connaître, hein. C'est un honnête homme, à Séville, au siècle d'or. Et j'espère que ce travail qui m'a pris quelques petits moments de mon existence, parfois la nuit, eh bien, sera utile, voyez, aux chercheurs, aux étudiants, aux curieux, dans la lumière dorée de l'art. Je vous remercie.